C'est les plus grands qui sortent avec Étienne et Emmanuel. Alors la fois dernière, j'avais parlé plus particulièrement aux hommes, et donc les femmes s'en sont réjouies. Cette fois-ci, je vais m'adresser plus particulièrement aux femmes. Et bien évidemment, les hommes, soyez attentifs. Parce que la façon dont les hommes se comportent dans l'Église est extrêmement importante, notamment pour le bien-être de l'Église du Seigneur. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que c'est normal que, depuis des siècles, il y ait eu enfin en tout cas ouais, ça fait bientôt des siècles, hein, je crois qu'il y ait des tentatives de rééquilibrage entre hommes et femmes, de la même façon qu'il y a eu des luttes pour faire en sorte que les gens de couleur ne soient pas rendus inférieurs à ceux qui ont la peau blanche. Il y a eu des luttes pour qu'il y ait plus de justice et d'équité humaine. Et je crois que c'est normal et que même c'était la volonté de Dieu que cela existe. Dans l'histoire, on sait que les religions ont été beaucoup responsables, en fait, de ces inégalités. En tout cas, la façon d'interpréter les textes a accentué l'inégalité entre les hommes et les femmes dans la société. Je vais vous lire un texte de Tertullien et vous allez pouvoir juger vous-même. Dans un traité intitulé La toilette des femmes, il dit la chose suivante: Tu enfantes dans les douleurs et les angoisses. Femme, tu subis l'attirance de ton mari et il est ton maître. Et tu ignores qu'Ève, c'est toi. Elle vit encore en ce monde la sentence de Dieu contre ton sexe. Vis donc, il le faut en accuser. C'est toi la part du diable. C'est toi qui as brisé le sceau de l'arbre. C'est toi qui, la première, a déserté la loi divine. Donc, ce genre de texte, évidemment, lorsqu'on le dit une fois et qu'on l'appuie et que ça devient une façon d'enseigner et de vivre, bien évidemment, ça crée des disparités et des inégalités extrêmement importantes dans des sociétés, notamment lorsque la religion est toute puissante et qu'elle marche de pair avec les autorités, avec les États ou les royaumes. Donc, on sort finalement d'une culture extrêmement misogyne. Mais évidemment, on récolte aujourd'hui, on va dire, on récupère le balancier dans l'autre sens avec un féminisme militant extrêmement puissant, donc qui essaye à ce moment-là de ramener la couverture plutôt à soi et beaucoup plus finalement que de prendre la défense des femmes, on est en train d'assister à un changement de mentalité dans la société, à tel point que finalement l'homme et la femme ne sont plus des individus avec leurs caractéristiques et leurs spécificités, mais sont devenus des concepts. N'est-ce pas? Lorsqu'on commence à accepter que un couple peut être complètement masculin ou complètement féminin, et malgré tout, posséder les deux qualités homme-femme, c'est-à-dire qu'il y en a toujours un qui joue le rôle de l'homme et l'autre qui joue le rôle de la femme, en tout cas, c'est comme ça que ces choses se font, eh bien, l'homme et la femme n'existent plus en tant que tels, ils existent juste en tant que concept, en tant qu'idée, en tant que principe. Voilà, donc aujourd'hui, c'est vers cela qu'on tend très fortement, très très fortement, et au grand malheur, il faut le dire, l'Église est encore en partie responsable de cette situation, parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est dans l'Europe du Nord, dans les églises protestantes, que les premiers mariages homosexuels ont été célébrés. Et aujourd'hui, il y a des églises gays un peu partout en Europe du Nord. Et évidemment, ça commence à venir ici. Il va sans dire que la parole de Dieu n'est pas d'accord avec ça, tout simplement. Dieu nous a créés merveilleusement distincts l'un de l'autre, avec des fonctions qui nous appartiennent aux hommes et aux femmes, et avec des possibilités pour les uns et pour les autres. Alors, la fois dernière, j'avais dit que il reposait sur l'homme la responsabilité du maintien de l'unité du couple. Que l'homme est responsable de ne jamais se désengager et de rester fidèle à son épouse, même si elle est infidèle. L'homme a aussi la responsabilité de servir son épouse à l'image de Christ, comme Christ sert l'Église. N'est-ce pas? On lit ça dans Luc 22, 27. Je suis, c'est Jésus qui parle, au milieu de vous comme celui qui sert. Alors que je pourrais être celui qui est servi. Et nous avions vu aussi que l'homme avait pour responsabilité de se livrer pour son épouse dans la prière, comme Christ s'est livré lui-même à l'Église, et qu'il ne devait pas, lorsque son épouse était en difficulté ou souffrante, il ne devait pas rajouter à ses difficultés en lui faisant des reproches ou en... Voilà, mais simplement lui rendre la vie plus facile et donc se porter auprès d'elle pour l'aider et l'aimer encore plus si c'était nécessaire ou possible. Donc l'homme doit, autant que cela dépend de lui-même, tout faire pour continuer à tisser et à conserver le lien de l'amour dans le couple. Voilà. Alors, j'entends déjà les hommes qui disent « Bon, maintenant, ça suffit. C'est pas que toujours pour nous. » Alors, je vais essayer de donc, parler plus spécifiquement aux femmes et pour les femmes. Et donc, poser la question suivante au regard de la parole de Dieu. Quelle est la part de responsabilité de la femme dans le couple? Et à cet égard, comment faut-il comprendre la notion de soumission dont parle la Bible? Alors, on va retourner dans Éphésiens. Chapitre 5. Alors, à partir du verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Le verset est clair. Il n'y a pas de doute sur ce qu'on lit. Christ est le chef de l'Église et le mari est le chef de la femme. L'Église se soumet à Christ comme la femme se soumet à son mari. Est-ce que cela veut dire qu'il y a une différence, une inégalité en termes de capacité et de valeur? Je ne crois pas. Jésus, dans Marc 10, verset 7, nous dit la chose suivante. « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare point ce que Dieu a joint. » Alors, il y a déjà là une indication, c'est-à-dire que la parole de Dieu vient de nous dire qu'ils ne sont plus deux, mais ils sont un. Et cette pensée-là n'appartient à personne de la contester. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Bien évidemment, on pense tout de suite, oui, il ne faut pas provoquer une séparation d'un couple ou ces choses-là. En réalité, ça va au-delà de ça. C'est que la pensée même, cette idée même que l'homme et la femme deviennent un seul, c'est installé comme quelque chose d'irréversible dans l'esprit de Dieu. L'homme et la femme sont un et Dieu les voit en tant que un, une seule entité. Dans Christ, il y a donc, quand Dieu regarde au couple, il regarde une égalité. Il regarde quelque chose qui n'a qu'une seule tête finalement. Et la femme, lorsqu'elle se soumet au mari, ne se soumet pas à la tête de son mari. Elle se soumet à la tête de Christ, à la tête qui est Christ dans le couple. Et c'est parce qu'elle se soumet à Christ qu'elle peut se soumettre à son mari également. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 7, au verset 4, dit la chose suivante. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Ah. Mais c'est le mari. Ah. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps. Mais c'est la femme. Donc, d'un point de vue de l'infériorité relative au corps, ça ne va pas non plus. Il n'y a pas d'infériorité d'un point de vue physique entre la femme et l'homme. C'est l'apôtre Paul qui le dit. D'ailleurs, je n'aurai pas le temps de le faire aujourd'hui, mais c'est extrêmement intéressant de lire l'apôtre Paul juste en ce qui concerne la femme. Tout ce qui est relatif aux femmes et que dit l'apôtre Paul. Et si vous voulez avoir vraiment la pensée de l'apôtre Paul, c'est ce qu'il faut faire comme travail. Il il faut voir quelles ont été ces collaboratrices, je dirais, dans l'œuvre et notamment dans l'évangélisation, pour comprendre quelle était vraiment la pensée de Paul sur la qualité de la femme et sur la position de la femme, même dans l'Église. Et je crois que l'on serait surpris si on regarde ça de cette façon-là. Donc la femme n'a pas autorité sur son propre corps. Chaque genre, chaque sexe est mis à égalité de droit. Le corps de chacun appartient à l'autre et il ne peut être cédé, donné à qui que ce soit d'autre hors du couple. Ça, c'est complètement impossible. Donc dans l'esprit de ce passage, évidemment, la notion d'adultère est complètement exclue, mais aussi la notion de polygamie, n'est-ce pas? Donc, certaines choses qui sont possibles dans d'autres religions, l'islam, dans certaines formes de pratiques musulmanes, on accepte la polygamie. Évidemment, cela rend la femme inférieure, puisque la polygamie ne va que dans un sens. La femme ne peut pas avoir plusieurs maris, par contre, le mari peut avoir plusieurs femmes. Il n'y a pas non plus d'infériorité spirituelle entre de la part de la femme. On lit dans Galates 3:28, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et on comprend donc que Christ est le chef de l'homme, au même titre qu'il est le chef de la femme, au même titre qu'il est le chef des juifs, des grecs, des esclaves, de tous les autres. Il est le chef de tous. Nous sommes, et tous réunis, hommes, femmes, juifs, esclaves, nous sommes tous, nous formons l'épouse de Christ. En réalité, hommes et femmes ont été créés complémentaires. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas des concepts humains. Le genre féminin et le genre masculin sont spécifiques dans leur essence, mais d'un point de vue spirituel, d'un point de vue du physique, il n'y a pas de valeur, comment dirais-je, d'inégalité en valeur et en capacité. J'essaie de choisir mes mots, hein, parce que je sais que c'est des sujets qui sont chauds, mais voilà. Si vous ne comprenez pas, vous venez me demander après. Donc Dieu nous a créés spécifiques. Il a d'abord créé Adam. Puis il a créé Ève. Hein, Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Après la création d'Adam, Dieu s'est dit... Qu'est-ce qu'il s'est dit avant de créer Ève? Pardon? Oui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Alors ça, c'est pas mal, moi, je trouve. C'est le pauvre homme. Si je laisse seul, il ne va pas y arriver. En gros, c'est ça. Et en fait, on peut traduire aide par secours, voire par allié. D'accord? Donc ça, c'était la pensée de Dieu. Il faut que je lui fournisse un secours, une aide, une alliée. Et donc, C'est en cela que l'homme et la femme sont complémentaires. Dieu a voulu que l'homme soit le chef de la femme, c'est-à-dire, et j'insiste, dans le sens où il a, lui, la responsabilité du maintien de l'unité dans le couple et du développement spirituel de la famille, des enfants. Ça, c'est la responsabilité de l'homme. Maintenant, la femme a-t-elle des responsabilités ? Oui, bien sûr. Elle a une responsabilité fondamentale qui est de tout mettre en œuvre pour aider, secourir son mari à rester dans l'obéissance à Dieu. Si un homme choisit délibérément de désobéir à Dieu, il appartient à sa femme de tout mettre en œuvre dans son comportement pour le faire revenir à l'obéissance. On lit ça dans 1 Pierre 3 au verset 1. « Femme, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. » Mesdames, est-ce que vous vous rendez compte de quelle responsabilité il s'agit là ? Parce que bien que le mari ait toutes les responsabilités dont je viens de parler ou que j'avais évoquées la fois dernière, il arrive bien souvent que ses maris soient défaillants. Et là, le rôle de l'épouse est fondamental. Il est réellement d'être une aide pour son mari. Et par son comportement, elle doit être en mesure de lui donner et lui apporter tout ce dont il a besoin pour qu'il raccroche le wagon, pour qu'à nouveau, il se tourne vers Dieu et qu'il fasse les choses que Dieu lui demande de faire. C'est une grande responsabilité. La femme a aussi la responsabilité de respecter son mari. Celui-ci, normalement, lui a prouvé son amour. N'est-ce pas ? À nouveau, tel que je l'ai exprimé la fois dernière, il a un amour sacrificiel pour sa femme. Il est disposé, en principe, à tout faire pour elle. Et il est prêt à perdre sa vie pour le bien-être de son épouse. En retour, la femme doit respecter son mari parce que s'il est en déficit dans l'amour qu'il donne à son épouse, eh bien, le fait qu'elle sache le respecter malgré tout va générer chez lui une envie de s'améliorer. En tout cas, on peut l'espérer. Mais aussi, une femme qui respecte son époux est une femme qui montre qu'elle apprécie ce qu'il fait, qu'elle apprécie ce qu'il est, malgré ses défauts. Malgré ses défauts, des fois très flagrants, je m'excuse, mais elle le respecte pour qui il est, pour ce que le Seigneur a fait de lui ou est en train de faire de lui. Et de cette façon, l'un et l'autre peuvent grandir. Lui se sentant respecté à une estime de lui-même, finalement, qui est intacte, et qui grandit, et lui, déversant, donnant son amour à son épouse, la gratifie elle aussi. Et l'épouse elle-même se sent respectée et se sent grandie aux yeux de son époux. Et de cette façon-là, le couple s'épanouit finalement devant Dieu. Et n'est-ce pas un des objectifs du couple, c'est qu'ensemble, ils puissent avancer et se faire avancer, je dirais, l'un l'autre, et tous deux en tant qu'entité, ensuite devant Dieu, devenir un couple merveilleux, d'une certaine manière, pour le royaume de Dieu, pour les frères et sœurs dans l'Église, pour l'histoire de l'Église, parce que l'histoire de l'Église est faite souvent de couples. Beaucoup de couples ont été des clés dans la vie de personnes lors de rencontres, lors de discussions, et ce que les couples ont appris, ils peuvent le transmettre à d'autres dans la mesure où ils sont écoutés. Éphésiens 5, 33, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme donc respecte son mari. Une femme doit être soumise dans le sens qu'elle ne doit se fier et ne s'occuper que de celui que Dieu lui a donné. J'ai dit la même chose pour les hommes. L'homme n'a pas le droit, n'a aucun droit de s'occuper d'une autre femme que celle que Dieu lui a donnée. C'est hors de question, ni en pratique, ni par les pensées. Ça, c'est l'Évangile, n'est-ce pas? C'est ce que que Jésus enseigne dans les évangiles. Il en va de même pour l'épouse. Et c'est un signe de soumission de l'un à l'autre. Lorsque Dieu m'a donné mon mari, eh bien je m'occupe de mon mari. Je ne dois pas, en tant que femme, envier non plus la spiritualité d'un autre. Parce que c'est une façon aussi de descendre son mari dans l'estime. On peut avoir cette tentation, une femme peut avoir cette tentation de dire « Ah oui, mais regarde celui-là, là-bas, où tu vois comment lui, il avance dans la foi, et toi, tu n'avances pas. » Une femme ne peut pas faire ça à son époux. Si elle fait ça, elle est en train de le détruire. Elle est en train de l'empêcher d'avancer avec le Seigneur. Parce que ce n'est pas son rôle que de le critiquer. Ce n'est pas son rôle que de lui dire qu'il n'est pas à la hauteur, ni de lui faire sentir. Parce que certaines femmes ne vont pas le dire. Vous avez des femmes qui sont fortes et qui sont capables de dire les choses directement. Eh bien, ce n'est pas une bonne façon de faire. Vous avez des femmes qui sont moins fortes, mais qui, par d'autres biais, vont donner le même message. Et ce n'est pas non plus une façon de faire pour son époux, parce que il va perdre sa force vitale, spirituelle, et finalement devenir incapable d'avancer avec Dieu. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Moi, je crois que certaines femmes ne seraient pas contentes si Jésus était là. Parce qu'elles le trouveraient trop mou. Ou parce qu'elles le trouveraient trop inactif dans certaines situations. Marthe était ce genre de femme. Elle trouvait que Jésus, il réagissait pas assez vite. Elle l'a fait appeler pour Lazare, et après elle lui a fait un reproche. Elle lui a dit, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Parce que Jésus, on se rappelle, a mis 3 jours pour venir, n'est-ce pas? Il n'est pas venu tout de suite. Qu'est-ce que nous aurions dit? Il y a des femmes qui aiment ça. Hein. Il faut que ça... Allez, il faut que ça pulse. Et si le mari ne suit pas derrière, eh bien, c'est peut-être parce qu'il est spirituel. Parce que qui va dire que Jésus n'était pas spirituel ? Jésus a pris une décision en fonction de ce que le Père lui disait de faire. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit : « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Tu vas rien lui dire ? En gros, c'est ça. Tu devrais lui dire quelque chose. Tu devrais l'engueuler. C'est ce qu'elle lui demande. Pourquoi tu fais pas ça ? Hein ? Mais pourquoi tu fais pas ça ? Marie, ça vous dit ça ? Mais pourquoi t'as pas fait ça ? T'aurais pu faire ça. N'est-ce pas ? Il y a une influence que la femme ne doit pas avoir sur son mari. Parce que critiquer son mari dans les décisions qu'il prend, ce n'est pas le respecter. Je vais essayer de passer certains morceaux parce que sinon je ne vais pas y arriver. Alors, qu'est-ce que la soumission ? La soumission, ce n'est pas la même chose que la résignation. Et je crains que dans les églises, nous ayons un grand nombre de femmes résignées. Mais lorsqu'on est résigné, on n'a pas encore commencé à obéir à Dieu. On n'a pas encore compris ce que c'était que l'amour de Dieu. La soumission, c'est une attitude volontaire de l'âme, celle qui accepte la volonté de Dieu. On sait que Jésus avait accepté de se soumettre au Père. C'était une acceptation volontaire de sa part. L'Église est soumise à Christ et c'est une attitude volontaire de la part de l'Église. La femme se soumet volontairement lorsqu'elle a compris l'amour de Dieu à son époux. C'est un choix volontaire que fait l'épouse qui est libérée d'elle-même, de son propre caractère, de ses propres envies, et de se consacrer au service de Dieu en servant son époux et l'Église. Je vous rappelle que l'époux lui-même a laissé toutes ses envies et ses ambitions, déjà, n'est-ce pas ? C'est toujours dans ce contexte-là que je parle. Hein. Rappelez-vous ma dernière prédication. Et sinon, réécoutez-la avant d'écouter celle-ci. La résignation, c'est l'acceptation de la fatalité. N'est-ce pas ? On trouve ça dans l'islam. Lorsque une femme devient musulmane, eh bien, elle n'a pas le choix. Toutes les choses que les femmes doivent faire, il faut qu'elles les fassent. Sans ça, ça ne va pas. Il y a des codes, des règles qui s'imposent à elle, qu'elle trouve que ce soit bien ou pas. Je veux dire, il y a tout ça, c'est la résignation. Mais Dieu ne souhaite pas qu'une femme fasse les choses par résignation. Dieu souhaite qu'une femme fasse les choses en connaissance de cause, qu'elle accepte la volonté de Dieu dans sa vie comme étant une évidence et que de ce fait elle puisse se consacrer à son époux. Alors, j'aimerais revenir au jardin d'Éden juste pour par rapport à la responsabilité. Adam, lorsque le couple a péché, il a dit à Dieu, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Adam, en disant ça, qu'est-ce qu'il fait ? Il essaye de diminuer sa responsabilité en désignant son épouse. Mais en désignant son épouse, il désigne en même temps le créateur de son épouse. Et donc, il met la responsabilité sur Dieu. Il dit, c'est toi, Dieu, finalement, qui est à l'origine de ma responsabilité. C'est toi, à cause de toi, que j'ai péché. Si nous pensons comme ça, si notre couple, dans notre couple, nous disons cela, et là, je m'adresse aux hommes et aux femmes, oui, j'ai péché ou je suis comme je suis à cause de celui qui est à côté de moi ou à cause de celle qui est à côté de moi. On n'est pas en train de désigner celle ou celui qui est à côté de moi. On est réellement en train de désigner Dieu. Et ça, c'est grave. Parce que spirituellement, on ne peut pas s'en sortir avec ça. Mais ça, c'est une attitude d'inconséquence qui est propre à l'homme et à la chute. Moïse a fait la même chose avec le peuple d'Israël. Il était irrité lorsqu'il était face au rocher de Meriba. N'est-ce pas ? Et Dieu lui a dit... Prends la verge, dans Nombre 20, verset 8, convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, et c'est de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau. Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but, et le bétail aussi. Mais à cause de cela, Moïse n'est pas rentré dans le pays promis. Dieu lui avait dit, parle au rocher. Adresse-toi au rocher. Et Moïse, par énervement, et pour une démonstration de force, ou pour impressionner le peuple, a frappé le rocher à deux reprises. En faisant cela, il a attiré la gloire sur lui, puisqu'il a agi, il a fait quelque chose, il a tapé le rocher, l'eau est sortie. Il a attiré la gloire qui revenait à Dieu sur lui-même. Et à cause de ça, Dieu lui a dit, tu n'entreras pas. Alors, le témoignage de Moïse a été le suivant à plusieurs endroits. Alors, il faudrait que je le retrouve, mais je ne sais pas. Oui, on va essayer rapidement. Dans Deutéronome, je crois, 1. Verset 37. L'Éternel, ça c'est le témoignage de Moïse. L'Éternel s'irrita aussi contre moi à cause de vous. Et si on va plus loin, chapitre 3, verset 26, l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous. Il parle au peuple. Et plus loin, chapitre 4, l'Éternel, verset 21, l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous et il jura que je ne passerai point le Jourdain et que je n'entrerai point dans le bon pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage. Moïse a mis la responsabilité sur le peuple. C'est parce que vous m'avez énervé que j'ai fait ce que j'ai fait. Le témoignage de Dieu, il est le suivant. Deutéronome 32, verset 51. Parce que vous avez péché contre moi, donc il parle à Aaron et Moïse, parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël, près des eaux de Meriba, à Kadesh, dans le désert de Tsin, et que vous n'avez point sanctifié, que vous ne m'avez point sanctifié au milieu des enfants d'Israël, tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Moïse a été puni à cause de sa faute, pas parce que le peuple l'a hérité. Dieu savait très bien que le peuple mettait Moïse dans tous ses états. Il le savait. Et le témoignage final que l'on a plus loin dans les psaumes le confirme. Ils irritèrent l'Éternel près des eaux de Meriba et Moïse fut puni à cause d'eux. Dieu le sait bien que c'est parce que Moïse a été tenté qu'il a péché lui-même. Mais Dieu ne pouvait pas accepter que Moïse dise « c'est pas ma faute, c'est la faute du peuple ». Dieu ne pouvait pas accepter qu'Adam dise « ce n'est pas ma faute, c'est la faute de la femme ». Parce que Jésus ne pouvait pas dire « c'est pas ma faute », sinon il ne serait pas allé sur la croix. Vous comprenez? Ce n'était pas possible dans tout l'Ancien Testament que Dieu dise « oui, c'est vrai, je comprends. Ton contexte social était si difficile que finalement, tu as péché contre moi. Et je t'en excuse à cause de cela. » Ultimement, Dieu le sait. Mais il ne peut pas accepter que l'on prenne ça comme une raison pour le péché. Un mari ne peut pas dire « j'ai péché à cause de sa femme ». Même si c'est vrai. Comprenez ce que je veux dire? Parce que sa responsabilité, c'est de tout faire pour maintenir l'unité dans le couple. Ça, c'est la responsabilité que Dieu lui a donnée. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que, bon, c'est la fin. Mais c'est un chapitre qu'on ne peut pas clore facilement parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais une chose est sûre, c'est que en termes de responsabilité, l'homme et la femme ont des responsabilités qui sont très grandes devant Dieu, l'un comme l'autre. Et je prie que dans cette église déjà, chacun dans le couple, chacun aussi en tant qu'homme dans l'Église et en tant que femme dans l'Église, parce qu'il y a des couples qui ne sont pas formés, ou voilà, il y a des femmes seules ou des hommes seuls, eh bien, ce qui a été dit dans le cadre du couple est aussi valable dans le cadre de l'Église, dans le cadre plus étendu de l'Assemblée locale. Et les hommes ont une responsabilité vis-à-vis des femmes de façon générale dans l'Église, et les femmes ont une responsabilité vis-à-vis des hommes de façon générale dans l'Église également. Voilà. Seigneur, que tu puisses nous éclairer encore chacun sur cette merveille que tu as accomplie de nous créer hommes, de nous créer femmes, de nous donner, Seigneur, des responsabilités à chacun qui sont si grandes devant ton trône. Seigneur, tu veux que nos couples soient unis et aient pour tête unique Christ. Et que, Seigneur, lorsque tu vois le couple, tu vois que c'est toi qui resplendis au milieu d'eux. Seigneur, je prie que cela soit le cas ici chez nous et que nous puissions les uns et les autres être exemplaires vis-à-vis de nos conjoints et de nos conjointes. Dans le nom de Jésus. Amen.